Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre antenne et puis bienvenue dans Le Cadran à l'occasion de la 6e édition du Salon du Livre Jeunesse. Alors cette 6e édition du Salon du Livre Jeunesse, c'est l'occasion pour nous de rencontrer des auteurs, de découvrir des éditeurs, de refaire sa bibliothèque éventuellement. Cet événement porté par la ville d'Évreux, la médiathèque et les libraires hébroïciens est ouvert tout ce samedi et également demain dimanche où vous pouvez bien entendu nous rejoindre. Sur cet événement, eh bien, vous retrouverez bien entendu des auteurs avec lesquels vous pourrez échanger, vous faire dédicacer des ouvrages, mais également il y a toute une série de spectacles qui sont proposés. Cette émission se déroulera jusqu'à 16h30. Voilà, le plateau est en train de se remplir, je vous en prie, installez-vous autour de cette table. Vous aurez l'occasion de découvrir les sujets tournés par notre ami Damien qui erre dans les couloirs. Non, il erre pas d'ailleurs, il se promène dans les couloirs afin de récolter des échanges autour des micros. Nous avons à la réalisation Monsieur Pignon qui s'arrangera pour empaqueter cette émission et la propulser jusqu'à vos oreilles. Et puis nous avons eu une spécialiste, une intervenante, comment est-ce qu'on dit, une experte, voilà, à savoir Enola, une jeune lectrice de 8 ans qui a été rencontrée PEF notamment et qui viendra nous éclairer de ses lumières de jeune lectrice.
Le cas condamne une nouvelle fois les radios libres. Les autoriser, dit-il, ce serait l'anarchie des ondes.
Principe actif par principe actif ou actif par principe, c'est principe actif.
L'équipe, des bénévoles tout à la fois techniciens et journalistes, tous ont en commun de faire une radio libre.
Principe actif.
Et donc pour ouvrir cette émission, quoi de mieux que de recevoir des organisateurs. Bonjour à vous, vous pouvez vous saisir de deux micros tout autour de vous. Ma toute première question, c'est, nous sommes sur un coportage entre des libraires hébroïciens et les services de la ville. Quelle est un petit peu la genèse, quelle est un petit peu l'idée de monter ensemble, de co-organiser ensemble un événement autour du livre jeunesse. Comment ça s'est fait et un petit peu la jeunesse de cet événement.
Dans un premier temps, il y a quelques années, j'ai essayé de négocier un salon du livre, mais je pense qu'un salon du livre, les libraires ne peuvent pas le faire tout seuls et que l'idéal, c'est la collaboration avec tous les services pour que ça ait cette ampleur. Nous, on peut faire des petites choses dans notre coin, mais sans ce service qui, en plus, est super performant, on n'aurait rien pu faire.
J'ai l'impression que ça s'envoie aussi des fleurs. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, un comportage entre voilà, des libraires et une ville, c'est pas forcément des formules régulières. Souvent, c'est porté par l'un, par l'autre. Là, c'est vraiment coporté.
Absolument, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir de ce désir d'un salon du livre, le service événementiel a été choisi et proposé au départ pour soutenir cette manifestation, la médiathèque également, et à partir de là, on a pu vraiment travailler tous ensemble, chacun dans des domaines différents, les libraires invitant les auteurs au début, après la médiathèque a reçu aussi, a pris des invitations. Nous, le service événementiel, on était sur la com, sur l'implantation, sur le soutien, à être à l'écoute aussi de leurs demandes. C'était important parce que nous, on découvrait, ils nous ont appris beaucoup de choses d'ailleurs. Merci aux libraires, on a appris beaucoup de choses.
Donc nous sommes sur la 6e édition de ce salon de la littérature jeunesse. Y a-t-il des nouveautés sur cette 6e édition ?
Ben, y a déjà effectivement la présence d'un éditeur, ce qui ne s'était jamais fait. Effectivement, ça a été particulier pour nous cette année, mais voilà, ça c'est vraiment la grande nouveauté. Les élèves aussi de l'école Michelet qui sont venus faire leur happening là tout à l'heure.
Ils sont encore venus, hein, c'est demain. Ils sont là. Il est tout à l'heure.
Non, ils sont venus, ils sont là actuellement, voilà. Ils sont au spectacle, mais ils sont venus tout à l'heure faire leur premier happening pendant l'attente. Et puis les spectacles changent aussi tous les ans. La conférence à l'auditorium aussi ce matin était une nouveauté. une exposition par la médiathèque également. Et puis, les libraires, tous les ans aussi, renouvellent leurs auteurs. On en a toujours la moitié minimum qui n'est jamais venue, que j'apprends à connaître, moi, cette année. Et puis aussi, il y a donc la présence aussi de Canopée.
Nous, nous ne sommes pas libraires. Donc, c'est le réseau Canopée, donc le réseau de création et d'accompagnement de ressources auprès des enseignants. Donc, en fait, on n'a pas de boutique. On est plutôt dans l'accompagnement auprès des enseignants dans les classes. Donc nos ouvrages sont toujours des ouvrages pédagogiques, même s'ils s'adressent aussi à la jeunesse. Donc en fait, l'entrée chez nous n'est pas la même, c'est pas la même démarche que les libraires, puisque nous, notre but est pédagogique. Donc on draine beaucoup d'enseignants. Il y a une animation pédagogique dans les locaux, comme tous les ans, ce matin. Et donc ce sont les enseignants qui viennent majoritairement, soit en tant que parents, soit en tant qu'enseignant, les deux se rejoignent, avec donc une offre qui est un peu différenciée de ce que vous pouvez trouver sur les autres stands.
Madame venait d'évoquer cette notion de pédagogie. Pour un libraire, j'imagine qu'on est porté quand même par certaines idées, certaines valeurs au-delà de la vente, parce que vous êtes également un commerce, mais je le sais, qu'il y a d'autres idées derrière tout ça à travers la lecture, non? Il y a un rôle éducatif.
D'autant
aussi.
Plus que nous sommes spécialisés en bande dessinée, l'Oiseau Vert spécialisé en jeunesse. Quand il y a le terme de spécialiste, il y a des choses à assumer derrière, à porter derrière, et le conseil en fait partie. C'est-à-dire le fait d'être spécialisé, c'est-à-dire qu'on va proposer des choses nouvelles aussi. On va proposer de la BD pour tous, du livre pour tous, mais apporter des nouvelles choses, montrer, présenter des nouvelles choses, aider de nouveaux auteurs, nouveaux éditeurs, en montrant ces choses-là. Et on est un relais aussi dans cette chaîne, dans un maillon de cette chaîne du livre. C'est ce que disait Annie tout à l'heure. Le salon du livre, ce n'est pas que les libraires. La médiathèque fait partie de ce réseau du livre. Il y a différents acteurs. Donc nous sommes un des acteurs. Mais effectivement, je pense qu'on a quand même une importance au niveau de ces recommandations, de ces conseils pour amener de nouveaux auteurs à être découverts. Et ça reste fondamental dans notre métier, effectivement.
Pour moi, c'est beaucoup accompagner le lecteur pour l'ouvrir, pour lui faire découvrir le plaisir de lire. Impossible. Donc oui, c'est ce qui est important, c'est ça. C'est qu'il y a un livre qui correspond à chaque enfant. Le tout, c'est de le trouver. Et même sur le salon où il y a beaucoup de monde, on est beaucoup sollicité pour aider, pour conseiller. On les emmène vers l'auteur qui va leur convenir. Parce que finalement, particulièrement cette année, on a des auteurs qui ont des livres pour tout public, du petit au grand ado, jusqu'à l'adulte. Et ça, c'est génial parce que tout le monde y trouve son compte, quoi.
C'est de manière un peu provocatrice, j'aurais envie de dire, alors, quel est l'intérêt d'un salon littérature jeunesse? Vous en avez répondu en partie à travers vos métiers, mais non, je ne vais pas donner de piste de réponse parce que j'ai déjà des idées en tête, moi, mais c'est quel est l'intérêt finalement de proposer au grand public un temps de rencontre autour de la littérature jeunesse?
Faire sortir les livres de la librairie, il y a plein de gens qui ne poussent jamais la porte d'une librairie. Si on ne va pas vers eux, ils n'y reviendront pas, quoi. C'est clair. Pour moi, c'était ça l'important, montrer que il y avait des livres géniaux dans les librairies, qu'il fallait oser pousser la porte. Donc, il faut aller vers eux.
Et puis, je vais rajouter quelque chose aussi. Ça nous permet d'amener les livres effectivement aux gens et d'amener tout ce qui est derrière le livre, à travers les auteurs notamment. Ça désacralise un petit peu le fait, beaucoup de gens ne poussent pas forcément les portes des librairies, et ça désacralise de montrer un petit peu qui sont ces auteurs qui écrivent, qui dessinent, qui illustrent. Ça permet de faire des rencontres. On le voit également parce qu'en amont du Salon du Livre, hier, beaucoup de rencontres scolaires ont été organisées dans les écoles. Et beaucoup, là, on voit beaucoup de gens. Moi, j'ai encore croisé une maman là tout à l'heure qui me disait que son fils a été vraiment subjugué hier par la rencontre qu'il a eue avec une dessinatrice. et qui est revenu aujourd'hui pour l'avoir. Donc voilà, ça casse un petit peu le mythe du livre, des auteurs. Ils découvrent vraiment que derrière, il y a des gens comme vous et moi. Et ça leur permet de réfléchir un petit peu à aussi comment se fait un livre, comment se fait une bande dessinée, comment s'écrit un livre. Donc c'est intéressant à travers ça, effectivement, d'apporter tout ce qui est autour du livre. Le livre, ce n'est pas seulement un objet. Il y a beaucoup de choses autour et le salon du livre permet de le faire découvrir. Les expositions sont la même chose, des choses déclinées du livre. L'éditeur, les rencontres avec l'éditeur, Thierry Meunier en l'occurrence sur ce salon, permet également d'amener, de montrer vraiment tout ce qui tourne autour du livre.
Alors ça me semble important justement finalement qu'il y ait plusieurs acteurs autour de cette table. Le libraire, la collectivité et aussi le réseau Canopé à travers l'enseignant, parce qu'en effet, l'enseignant est aussi celui qui va relayer la lecture dans la classe et qui va amener aussi les parents au salon, puisqu'on s'aperçoit qu'en effet, les enseignants vont présenter des livres. Bon, c'est vrai que c'est un gros public aujourd'hui, l'enseignant. Il va présenter le livre dans la classe. L'enfant va rentrer à la maison en disant « Regarde un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert. » Et ils vont revenir ici. Et je pense que c'est important parce que dans la découverte de la lecture, dans la découverte du livre, dans cette envie de découvrir cet objet, et que, comme disait monsieur, le métier qui est derrière, je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Et je pense que c'est important qu'on soit tout cela, parce qu'on est les acteurs de cette rencontre avec le livre.
Pour rebondir sur ce que vous dites avec le travail en école et que du coup les enfants reviennent à la maison avec cette envie de partager, ça peut être une pratique individuelle de la lecture, ça reste quand même quelque chose qu'on partage de manière assez naturelle. Alors nous, adultes, nous partageons pour les lecteurs nos échanges. Bien souvent, alors là je parle plus de mon expérience, mais les livres qui vont être entre mes mains, c'est des livres qui m'ont été conseillés, des gens qui m'en ont parlé, et puis moi-même je vais en parler à d'autres, parce que c'est cette envie de passer quelque chose. Chez les enfants, c'est exactement la même chose qui est suscitée à travers le partage. Quoi.
Mais on le voit là aujourd'hui, les familles qui viennent avec plusieurs enfants, certains ont découvert soit à travers les ateliers qui ont lieu dans les classes, soit à travers le travail de l'enseignant, un livre, un album, et là ils emmènent les frères, les sœurs, viens voir, regarde, et c'est vrai qu'ils font découvrir le livre au reste de la fratrie, et je trouve ça extraordinaire de voir des petits bouts de choux qui ont parfois 4-5 ans amener les grands frères ou les petites sœurs découvrir et aller vers le livre. Et comme en effet aujourd'hui il y a les livres pour tous les âges, finalement chacun y trouve son compte.
Et cette notion de partage, c'est effectivement très important et ça revient beaucoup autour du livre. Rien que quand on réfléchit, lorsqu'on offre un livre, on n'offre pas seulement quelque chose qui va plaire à la personne, on offre toujours quelque chose qu'on a déjà aimé, qu'on nous a conseillé, qui nous plairait. Il y a vraiment, c'est effectivement lorsqu'on fait en l'occurrence en cadeau, c'est un partage aussi, et on le retrouve dans le partage autour de la famille, l'enfant qui va revenir, qui va aimer le partage avec ses copains, qui va en parler aux parents, qu'on en parle les adultes entre amis, des choses comme ça. Donc effectivement, le livre est vraiment étroitement lié au partage.
Oui, moi je voulais dire que nous, au niveau du service événementiel et de la ville, il y a cette désacralisation de la lecture et du livre. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. On a vu un public dès la première édition extrêmement nombreux. On a compris que la demande était là vraiment. C'est vrai qu'avec Bouquin Câlin, il y avait déjà une histoire de la lecture avec l'histoire jeunesse aussi, avec l'Oiseau Lire, etc. Et on a vu l'engouement ne jamais cesser de monter au niveau du Salon du Livre de Jeunesse. Les auteurs, ce qui nous a le plus étonné, nous événementiels qui ne sommes pas libraires, qui ne connaissions rien en dehors du fait qu'on soit lecteurs nous-mêmes, c'était l'extraordinaire beauté personnelle de chaque auteur, comme ils étaient heureux d'être accueillis, comme on était heureux de les accueillir. Et on a été vraiment très très touchés par le fait qu'ils soient eux-mêmes touchés quand ils viennent à Évreux. Ils s'en souviennent, quand on va les chercher à la gare, ils se souviennent de tout. Enfin, il y a cette vraie proximité avec les auteurs que je ne soupçonnais pas pour avoir moi fait d'autres salons. Je n'ai jamais vu ça dans les autres salons ailleurs qu'à Évreux, où les auteurs sont là pendant une heure et demie, vous faites la queue pendant 20 minutes, ils sont... Et nous, ils sont là, ils prennent le temps. Chacun revoit l'auteur, peut-être même l'année suivante. Quand on fait des statistiques, il y a deux formules. Il y a des gens qui nous disent « Oh, bah, ils sont déjà venus », puis il y a ceux qui disent « Ah, il n'est pas revenu, c'est terrible !» Donc voilà, on a... Et ça, c'est assez extraordinaire pour nous, Service événementiel. C'est une manifestation qu'on adore, personnellement.
Alors, je pense que les auteurs aussi ont quand même l'habitude de venir dans la région avec le prix des dévoreurs de livres. Hein. Donc beaucoup d'auteurs ont déjà été invités, rencontrés des enfants et savent que dans la région, on lit.
Oui, parce que pour revenir pour les auditeurs qui sont pas au fait de tout ce qui peut s'y passer, mais les libraires, et notamment sur Évreux, animent également à travers des temps particuliers. Ouais. Annie, vous évoquiez les dévoreurs de livres, mais il voilà, y a un tas d'autres événements autour du livre. Il y a les rencontres auteurs également
qui sont
organisées tout au long de l'année dans les librairies.
Il y a les croqueurs de livres, il y a le prix Janusz Korczak et des rencontres.
Oui, des rencontres à la librairie, on en fait également. On essaie de faire au moins une rencontre par mois et des événements en dehors de la librairie, dès qu'on peut, des partenariats avec d'autres acteurs culturels, des Évreux ou des environs. Effectivement, il y a énormément d'opportunités, de moments et de lieux pour justement montrer les livres, partager, on y revient au partage, partager tout ça. Donc, il faut en profiter un maximum et en faire profiter le maximum de monde, comme le Salon du Livre en offre la possibilité.
Alors, je crois que le concours des dévoreurs de livres est porté par la DSDEN de l'heure, et c'est vrai que je crois qu'il y a une vraie volonté de la DSDEN de l'heure de justement encourager les enseignants à participer à ce type de concours.
Il y a aussi beaucoup le département.
Oui, le département,
bien sûr. Il y a beaucoup de partenaires,
mais je pense
qu'en grande partie le département, oui.
C'est vrai qu'il y a une volonté quand même de tous de porter ce projet, et ça c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien, parce que tous les partenaires font leur maximum pour favoriser ce type de rencontres et de découvertes du livre. Et ça ne se passe peut-être pas partout. Une telle proximité, c'est vrai qu'on ne le rencontre pas forcément dans tous les départements.
Eh bien, merci à vous de ce passage sur notre antenne. Et puis, on devrait se recroiser dans les couloirs, bien entendu. Merci beaucoup de votre présence. Je rappelle qu'en plateau, nous avions les libraires, à savoir les libraires de BD Lib et de L'Oiseau Lire. Les collègues de Gilbert Joseph n'étaient pas disponibles. Il doit y avoir beaucoup de monde sur le stand sûrement, mais nous aurons sûrement l'occasion de les croiser autour des micros. Madame également, qui représentait le réseau Canopée, ainsi que la ville d'Évreux. Merci beaucoup. Je propose, Monsieur Pignon, que nous avons eu des organisateurs, c'est qu'on entende les voix, les usagers qui sont présents aujourd'hui sur ce salon du livre jeunesse.
Eh bien bonjour madame.
Bonjour.
Vous vous appelez ?
Marie.
Marie, bonjour Marie. Toi ma grande, tu t'appelles comment ?
Jeanne,
bonjour Jeanne. Et toi, comment tu t'appelles ma belle ?
Yelena,
bonjour. Je vous vois, mesdames et mesdemoiselles, déambuler dans le salon du livre. Vous avez déjà plein d'ouvrages d'ailleurs dans les mains. Est-ce que vous veniez pour des raisons précises rechercher des nouveautés, découvrir, ou alors vous aviez déjà repéré des artistes, illustrateurs ou auteurs que vous souhaitiez voir ?
Alors, on n'avait pas repéré du tout. En fait, c'était juste sur le principe du salon du livre. Comme mes filles sont des grandes lectrices et moi aussi, c'était donc juste pour le plaisir de venir voir tout ce qu'il pouvait y avoir, de découvrir justement de nouveaux auteurs et pour elles de pouvoir les rencontrer aussi, parce que c'est toujours un moment privilégié.
Ça veut dire que c'est un réflexe que vous avez, vous venez tous les ans ici ?
Alors, il se trouve que nous sommes sur Évreux depuis pas très longtemps.
Donc vous découvrez
donc
ce type d'événement.
Voilà,
d'accord,
à fait.
Chouette.
Aussi.
Alors ça veut dire des livres tous les jours. Toi ma grande, tu lis des livres tous les jours. Ils sont plus consistants, tu as quoi, 11-12 ans, c'est ça ?
11 ans, oui.
11 ans. On lit des livres un petit peu plus épais, mine de rien presque. Tu lis depuis longtemps, maman t'avait bercé dans la lecture très tôt, c'est ça un peu l'histoire ?
Ouais. C'est ça, oui.
Et là par exemple, tu as trouvé quoi ? Tu peux me dire les deux livres que tu as trouvés ?
Un jour à tuer de Hubert Ben Kemoun et le livre de toutes les réponses de Manon Fargueton.
Et sur quoi tu te bases pour choisir ces livres ? C'est par rapport à l'histoire ou par rapport au dessin, aux illustrations ?
C'est par rapport au résumé.
Au résumé, qui te donne envie. Et toi, ma belle, tu as pris quoi alors ? Alors, il y en a... Oh, toi, il y en a trois. Ah, il y en a un de PEF, tiens, d'ailleurs. Comme copine Enola, L'école du prince de mots tordus.
J'ai pris le même.
Ah, d'accord. Les sept sorcières, très important. Et puis, L'ogre au pull rose... Griotte, ça c'est rigolo ça comme histoire. Donc, madame, du coup, le plaisir, là, je vois, il y a de la disponibilité. Les auteurs sont très, très avenants avec vos filles. Tout le monde joue le jeu, en fait.
Absolument, tout à fait. Ils sont absolument charmants. Ils prennent le temps de discuter avec chacune, prennent le temps de faire de très jolies dédicaces. La plupart, ce sont d'ailleurs des dessins, des illustrations. C'est extrêmement personnalisé. Donc c'est...
Oui, on prend le prénom de l'enfant, on l'adapte.
Voilà.
Donc, absolument. Un grand plaisir.
Et même des portraits. La petite a eu 2 portraits.
Super. Fais voir, toi, ma grande, alors, les portraits là, que tu as eus, en plus de PEF. Ah bah d'accord, ouais, ça va être... Ah oui, d'accord, très chouette. Une petite caricature mignonne comme tout. Et puis là aussi, sur ce... J'aime lire, Yelena. Eh bah c'est superbe. Donc bon après-midi, merci beaucoup à vous, Marie et mesdemoiselles. Bon après-midi.
Voilà, c'était du public qui était sur ce salon du livre jeunesse qui se déroule actuellement au cadran d'Evreux, avec bien entendu l'entrée gratuite. Je le précise parce que c'est venez, voilà, au moins pour vous y promener. Il s'y passe un tas de choses intéressantes. Voilà, et c'était au micro de notre ami Damien. Nous poursuivons cette émission et nous recevons maintenant à nos micros Thierry Magnier, éditeur. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, ma toute première question, ce serait... Qu'est-ce qu'un éditeur ? En quoi consiste le métier d'éditeur ? Auteur, on voit bien, c'est celui qui va créer. Libraire, on voit bien, c'est celui qui met en rayon les livres. Mais alors, l'éditeur, quelle est sa mission ? Quel est son rôle ?
Tout dépend de l'éditeur. Il y a des éditeurs qui ne font pas tout ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'éditeurs de création. C'est avant tout un travail de complicité avec un auteur, c'est-à-dire le diriger, comme un chef d'orchestre un petit peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ça se fait naturellement, mais on a un texte, il faut l'illustrer, il faut trouver l'illustrateur, il faut les marier, il faut trouver l'objet. L'objet est important, c'est un livre, il faut le promouvoir, il faut... Voilà, toutes ces choses qui sont... faire travailler des maquettistes, faire travailler des correctrices, faire travailler... Enfin, tous ces gens qui tournent autour de la chaîne du livre.
Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une patte de l'éditeur ? C'est-à-dire que quand on a trouvé, je ne sais pas, un ou deux ouvrages d'un éditeur, est-ce qu'on peut se dire au bout d'un moment, bon, bah, a priori, cet éditeur est dans un truc qui pourrait nous convenir ? Est-ce qu'il y a une philosophie de l'éditeur forte ?
Moi, je pense, oui. Il y a une politique, une vraie politique éditoriale. C'est-à-dire que, là encore, une fois, il y a des gens qui sont fabricants de livres, et ça ne nous intéresse pas, puisqu'ici, il n'y a que des créateurs. Donc, oui, on a une politique, il y a une patte, il y a des choses à dire, Oui, on retrouve, enfin, à mon avis. Enfin, j'espère que j'arrive à montrer ce que je peux faire avec tous ces livres.
Alors, pour m'être promené tout à l'heure, il y avait un ou deux ouvrages que j'ai reconnu, j'allais vous dire, qui sont dans mes bibliothèques personnelles, ou plutôt celles de mes enfants.
Hein. Oui, mais vous pouvez les lire aussi.
Bien souvent, ça passe aussi par la lecture.
Absolument.
Avec les parents, hein,
bien sûr.
D'ailleurs. Quelle est la patte Thierry Magnier, alors ? Est-ce que vous sauriez nous définir un petit peu votre politique d'éditeur ? Enfin, je ne sais pas si on peut parler dessus. Oui, politique
si,
d'éditeur.
C'est une politique, oui. Mais c'est très difficile, en fait. En plus, moi, je dirige 4 maisons. Actes Sud Junior, Rouergue, Hélium et Thierry Magnier. Donc, je suis un peu schizophrénique, là. Non,
est-ce que, du coup, c'est votre... est-ce que, finalement, c'est à travers votre propre maison d'édition que vous réalisez ce que vous ne pouvez pas ailleurs ?
Ah non.
Non, parce que quand vous dites, voilà, il y a 4, je m'occupe de 4 éditions, est-ce qu'au bout d'un moment, la vôtre, qui est plus personnelle, du coup, permet d'autre chose ?
Non, parce que j'essaie de dispatcher un peu les livres en fonction, justement, d'une politique éditoriale. Certains font plus de documentaires, d'autres font plus de pop-up, d'autres... Donc on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas, justement, de mélange, et que ces maisons d'édition aient leur identité pure. Moi, le travail que je fais chez Magnier, c'est plus un travail de travail avec des plasticiens, plus que avec des illustrateurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des artistes, qui sont en évolution et que j'accompagne tout le temps. Bon, certains, depuis 18 ans, sont avec moi et on évolue ensemble. C'est-à-dire qu'on travaille sur un projet et une évolution de leur peinture même et les directions qu'ils prennent. Donc c'est un peu le côté graphique qui est un peu différent, parce que c'est vraiment, là on voit qu'il y a des artistes derrière. Et c'est pas seulement une petite illustration, c'est avant tout un travail de recherche. Et puis en termes de texte aussi, ça c'est important, on a quand même des écrivains assez importants qui écrivent chez nous et qui viennent se frotter à la littérature jeunesse, ce qui n'est pas facile non plus pour eux quand ils ont l'habitude de faire de l'adulte.
C'est pas forcément évident d'ailleurs la littérature jeunesse, parce qu'il faut savoir quoi, se remettre dans ses baskets de quand on était plus jeune, ou comment est-ce qu'on cherche du coup?
Moi, vous savez, je dis toujours, et je le répète et tout le monde l'entendra tout le temps de ma bouche, c'est-à-dire que très souvent on a des grands auteurs importants qui viennent me voir en disant: Thierry, j'aimerais bien faire un petit livre pour les petits-enfants. Et je leur réponds tout de suite, bah non, ça m'intéresse pas, nous on va faire un livre. Et surtout pas réduire le texte parce que ce sont des enfants et d'essayer de faire en sorte que ce soit tout d'un coup un peu bétifiant. Il faut mettre les mots tels qu'ils sont. Un mot pour un enfant, même s'il ne le comprend pas, c'est un son, c'est une résonance, c'est un univers, et ça c'est important.
Quelle est la place de la notion éducative? Parce que à travers les livres, on s'éduque. Quand on est éditeur, quelle est la place de l'éducatif dans le choix? En tout cas, quelle est pour vous la place de l'éducatif?
Moi, vous savez, j'étais enseignant à un moment de ma vie, donc je connais ça un petit peu, l'éducation et la pédagogie. Mais je pense que dans un livre, quel qu'il soit, la pédagogie ne doit pas exister. C'est le pédagogue qui doit utiliser le livre pour sa pédagogie, mais surtout pas le livre qui soit quelque chose. Les livres médicaments pour les enfants, comme on voit partout, je fais pipi au lit, j'attends une petite sœur ou mes parents divorcent, c'est assez bétifiant.
Ça peut être un outil tout de même pour aborder.
C'est un outil de déculpabilisation des parents, mais l'enfant il n'en a rien à faire. Ce qu'il sait, c'est qu'il va avoir une petite sœur et que ça va lui prendre beaucoup de place. C'est ça son problème. C'est pas du tout le petit livre qu'on met. Vous savez, c'est comme pour les adolescents quand il y a un problème de drogue, les parents qui ne savent pas trop bien en parler mettent sur la table basse du salon un livre qui traite de la drogue et des adolescents. Ça, c'est le truc foireux et raté immédiat.
Parce qu'il ne s'adresse pas forcément
au public,
il s'adresse aux parents.
Il s'adresse aux parents et qu'il n'a surtout pas envie d'en parler. Donc les livres médicaments, pour moi, ça a toujours été c'est des choses qui marchent très très bien, mais j'y crois pas un instant. Et je crois que dans une fiction ou n'importe quoi, dans tous ces livres, on peut parler de ces sujets sans parler vraiment, quoi.
On grandit tout de même à travers ses lectures. Enfin, quand on est un enfant, on apprend, on expérimente, et on grandit à travers ses lectures, même adulte d'ailleurs.
Oui, non seulement on grandit avec ses livres, mais on grandit avec le même livre parfois. C'est-à-dire que si le livre est bien fait, il y a beaucoup de niveaux de lecture. Et à 4 ans, on va entendre quelque chose, à 10 ans, on va entendre un autre. Et c'est le cas Petit Prince, quoi. Le Petit Prince, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on lit à 10 ans, on lit à 40 ans ou à 60 ans, on lit 3 bouquins différents. Et ça c'est les choses qu'on a envie de faire quand on fait un livre, c'est plein de niveaux de lecture pour pouvoir choper à un instant ou à un moment l'enfant ou l'adulte dans cette histoire.
Ce matin, il y avait une rencontre autour du numérique, les nouvelles technologies qui aujourd'hui, et notamment à travers les enfants, sont devenues incontournables. Quand on est éditeur, quel regard on porte sur le livre de manière numérique? Et comment vous, plus particulièrement, Thierry Magnier, vous regardez cette...
Alors, moi si vous voulez, le numérique m'apporte pas grand chose à moi. Bon, je suis absolument pas contre. D'ailleurs, tous mes romans, tout ce qui est en noir, est numérisé et donc vendu en numérique. Le problème, c'est j'ai fait un seul livre numérique illustré avec Régis Lejon, qui s'appelle Quelle couleur. Ça se vend pas, quoi, soyons clairs. C'est-à-dire que c'est un boulot absolument monstrueux, ça coûte excessivement cher, et on le vend très très peu cher, et on le vend pas, et donc ni l'auteur ni l'éditeur gagnent de l'argent, et on peut plus créer. Donc c'est pour moi, pour l'instant, une aberration. Bon, maintenant, il y a des belles choses, tant mieux, j'en suis ravi, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que continuons déjà avec ces livres qu'on a, continuons à faire de beaux livres, c'est-à-dire de beaux objets. C'est-à-dire que pour moi, le contenu, bien évidemment, est très très important. Mais la chose la plus importante aussi, c'est l'objet lui-même, l'objet sensuel du livre. C'est-à-dire tourner des pages, sentir l'encre, ouvrir. Enfin, c'est l'objet sensuel, quoi, hein, par excellence. Et ça, franchement, sur une tablette, la sensibilité, je ne l'ai pas trouvée encore.
Aujourd'hui, vous êtes avec les éditions, avec un espace dans lequel il y a les rencontres avec des auteurs. Mm-hmm. Quel est l'intérêt? Pourquoi vous trouvez important que les auteurs rencontrent le public, ou que le public rencontre les auteurs? D'ailleurs, c'est peut-être dans les deux sens l'échange.
Bah, c'est-à-dire que c'est pas moi qui décide de tout cela, vous savez. C'est...
Non, mais j'imagine que vous y participez et partagez l'intérêt.
Je suis très flatté d'être l'invité éditeur de cette année, puisque c'est la première fois que les organisateurs invitent un éditeur. Donc je suis ravi d'essuyer les plâtres, parce que bon, il y a des choses. Voilà, mais ça, c'est plutôt sympathique. Et puis de rencontrer, que les auteurs rencontrent leurs lecteurs, c'est quand même bien. Que moi je rencontre aussi des lecteurs, c'est bien aussi, parce qu'on est quand même un peu dans une bulle. On est toujours dans nos bureaux en train de bosser sur nos bouquins, en pensant que ça, c'est tel enfant qui le lise, et pas du tout. Enfin, y a tout ça, c'est toujours très intéressant. Et puis d'avoir les réactions sur le show, comme ça, on s'en prend plein la tête parfois. Et au contraire, quelquefois, c'est magnifique, on entend que des belles choses, puis des fois, pas toujours, quoi. Donc tous ces échanges sont toujours bien. Et c'est surtout que ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants, particulièrement, puisque là on s'adresse plus aux enfants, s'aperçoivent qu'en fait un auteur, un éditeur, bah, c'est comme les gens qui les entourent, quoi. C'est des gens passionnés qui font un truc qui passionne aussi les enfants, et que cet échange peut être sympathique. Ça peut leur donner le goût aussi de l'écriture, de la lecture, du dessin. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Tout à l'heure, en introduction de cette émission, nous recevions des libraires et des organisateurs qui disaient que la lecture se partage. Est-ce que je vous sollicite en disant, est-ce qu'il y a quelque chose, un ouvrage, un auteur que vous souhaiteriez partager en particulier avec les auditeurs?
Ça, c'est très difficile, parce que j'en ai beaucoup. Je fais 260 titres à l'année, donc je vais en
vexer. Oui, mais pas forcément un que vous éditez, d'ailleurs. Ah, peut-être d'accord. Que vous avez... Ah. Bah, là, c'est juste là, la question très humaine, très directe. C'est plus à l'éditeur que je m'adresse, mais à l'humain. Est-ce que, voilà, en termes de lecture, vous auriez envie de partager quelque chose avec les auditeurs? Un auteur, un livre, quelque chose qui vous aurait marqué, et plutôt dans la littérature jeunesse, pour recoller au thème?
Non, moi, je dirais Marguerite Duras, donc... Ceci dit, j'ai sorti l'an dernier un texte de Marguerite Duras qui avait été édité il y a 40 ans, et un texte pour enfants, écrit pour des enfants, qui s'appelle A. Ernesto, qui est une merveille, merveille. Et là, je peux, parce que cet auteur est mort, donc je ne le favorise pas par rapport à mes autres auteurs. Mais c'est un texte, A. Ernesto, c'est un texte sur la connaissance, le savoir et l'apprentissage. Et je peux vous assurer que tous les gamins s'y retrouvent, tous les instituts s'y retrouvent, et je pense que les parents peuvent s'y retrouver. Et c'est un texte merveilleux. Voilà, et c'est Duras. Et pourtant, on ne pourrait pas penser un instant que Duras ait pu écrire un moment pour les enfants.
Très bien, ben merci beaucoup à vous, merci pour ce partage, et puis pour le moment que nous avons passé autour des micros. Merci à vous, merci. Thierry Magnier, éditeur invité de ce 6e salon du livre jeunesse. Monsieur Pignon, je me retourne vers vous et je vous propose une première pause musicale, si ça vous convient.
fanfaraille sélectionnée par notre ami Monsieur Pignon, en direct toujours du 6e Salon du Livre Jeunesse d'Evreux au Cadran. Rejoignez-nous.
C'est trop bien la radio!
Principe Actif 102.4 FM.
Et puis après avoir rencontré les organisateurs, après avoir entendu de la voix du public, après avoir rencontré un éditeur, il nous fallait absolument rencontrer un auteur, ceux qui font ces fameux livres. Et justement, nous avons été rencontrer PEF, célébrité notamment à travers Les Mots Tordus que tout le monde a dû dévorer un moment dans sa vie. Et nous avons donc notre jeune journaliste Enola, journaliste de 8 ans, qui a été rencontrer PEF. Je vous propose qu'on écoute tout de suite cet échange.
Péféré. Ah, c'est mon livre Péféré. Mots Tordus est mon livre Péféré. Ben, j'aurais pas osé le faire, ça, quand même. Hein. Mais c'est la première fois que j'entends ce mot-là, tu vois, Enola. Et c'est très bien, le livre Péféré. Voilà, donc bravo. Bravo, tu es admis à la cour du prince de Mots Tordus.
Vous aimez ce travail ?
J'aime ce travail. Alors, pour moi, si tu veux, c'est un travail un peu passion, hein, parce que j'ai pas de bureau, j'ai pas d'usine, j'ai pas d'horaire, je peux travailler quand je veux. C'est une passion dévorante. Chez moi, c'est pas toujours aussi drôle que dans mes livres, hein, parce que je suis un peu distrait, je peux ranger une pièce de tissu vert dans le frigo en croyant que c'est de la salade, tu vois. Donc, ceci dit, je suis quand même quelqu'un de normal, hein. Je suis quelqu'un de normal, mais j'ai les pieds sur terre et la tête un peu dans les nuages, tu vois. Alors, en plus, c'est un travail qui te permet d'inventer des choses, des histoires, de créer des dessins. Ça, c'est un travail, tu vois. Ma grand-mère, elle était sage-femme. Tu sais ce que c'est qu'une sage-femme ? C'est celle qui aide les mamans à mettre leur bébé au monde. Eh bien, moi, je mets au monde des livres, quoi, tu vois. Les livres, c'est des personnes, quoi, tu vois. C'est des personnes, ça vit, ça meurt aussi. Mais c'est mes enfants de papier. Alors, je suis un père de famille nombreuse.
Vous êtes inspiré de quoi ?
Alors, ça dépend. Pour quel livre, disons ? Est-ce que ça serait pour le prince de Mots Tordus ?
Oui.
Ah, voilà. Alors, le prince de Mots Tordus, figure-toi que ma maman était institutrice. Et moi, je vivais dans l'école. C'était une époque où les instituteurs pouvaient très bien... étaient logés dans des écoles. Ce qui fait que leurs enfants étaient toujours à l'école. Même quand tu étais malade, tu étais encore à l'école. Tu vois, Enola. Et tous les matins, c'était moi qui allais ouvrir la porte de l'école. Et j'avais la clé dans une main, j'avais une petite blouse grise, des petits genoux roses, des galoches de bois. C'était il y a très très longtemps, c'était en 1947. Tu vois, on est en 2015 quand même. Donc les copains et les copines m'attendaient à la porte de l'école. Et tous les matins, ils me posaient la même question. Alors, c'est ouvert ? Ils étaient pressés de venir jouer aux billes, à la marelle et tout, tu vois. Et moi, je disais, voilà, j'arrive. Et puis, un jour, j'en ai eu assez. Ils me posaient toujours la même question. Alors, c'est ouvert. Voilà, j'arrive. Et quand ils m'ont reposé la question, alors, c'est ouvert, j'ai répondu, non, c'est tout bleu. Tu vois, c'est ouvert, c'est tout bleu. Ça a été mon premier jeu de mots. Et ça les a fait rire, tu vois. Ils ont fait « Ah, 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 elle est bien bonne, celle-là. » Et tout d'un coup, je me suis aperçu que j'avais fait rire des plus grands que moi. Parce que j'étais le plus jeune, j'avais 7 ans, quoi, tu vois. Et donc, ça, j'ai appris à faire du patin roulette, du vélo, tout ça, bon. Et bien plus tard, j'ai eu à mon tour des enfants. Et un jour, ma fille, quel âge tu as, Enola ?
8 ans.
Oui, tu vois, ma fille avait 7 ans, elle me dit « Papa, est-ce que je peux sortir ?» J'ai dit « Oui, Elsa, mais fais attention, il fait froid, ferme la porte. » Et elle me répond « Oui, papa, je vais fermer la morte. » Tu vois ? Et tout d'un coup, je me suis dit « Mais c'est vrai, moi, quand j'avais l'âge d'Elsa, à peu près 7-8 ans, j'ai fait des jeux de mots, et le mot tordu n'existait pas encore. » Et quand elle est partie, Elsa, j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit la belle histoire du prince de Mots Tordus. Tout ça parce que je me souvenais d'un petit morceau de mon enfance et qu'un de mes enfants avait aussi fait un jeu de mots. Voilà comment est né Le Prince de Motordu. C'est ça qui m'a inspiré. Et comme je suis aussi dessinateur, je trouve... Attends, il n'y a personne qui nous écoute, là. Là, cette radio, il n'y a personne qui nous écoute. Là, tu vois, ils n'écoutent pas. Ah, mais peut-être qu'il y en a ailleurs aussi qui nous écoutent. Eh bien, je préfère dessiner un râteau à voile plutôt qu'un bateau à voile. Parce que si j'essaye de dessiner un bateau à voile, il y aura toujours quelqu'un pour me dire « Là, le mât, il est mal placé, les voiles sont pas comme ça, les canons sont pas comme ça. » Tandis que si je dessine un râteau à voile, personne ne peut faire de reproches, puisque ça n'existe pas. Voilà, c'est pour ça que Le Prince de Motordu, ça se prêtait bien à l'illustration. Tu vois, garder un troupeau de boutons, faire une bataille de poules de neige, jouer aux tartes dans la grande salle à danger, ça peut donner des dessins très chouettes à faire. Voilà, Enola.
C'est vrai que vous n'aimez pas les gosses?
Écoute, là, je crois que quand j'ai fait ce livre-là, J'ai horreur des gosses, j'étais un peu fatigué parce que j'en rencontre beaucoup. Beaucoup. Je vais souvent dans les écoles, mais des fois, au bout du monde, de l'autre côté de la Terre, tu vois, près de l'Australie, ou alors en Guyane, au Brésil, en Finlande, en Afrique et tout. Et je devais être un peu fatigué et j'en avais un peu assez des gosses. Et j'ai dit, je vais faire un livre pour me calmer. Et ils ont adoré les mômes. Ils ont adoré les gosses, tu vois. Et surtout, qu'ils m'ont envoyé des suites au bouquin en disant « Moi, j'ai horreur de PEF. Voilà, j'ai horreur des parents. » Parce que eux, les parents, quand ils travaillent, on les paye, alors que nous, à l'école, on ne nous paye pas, tu vois. « J'ai horreur de la maîtresse. » Voilà. Mais ça a été un livre... Et tu sais, à la fin du livre, je dis « Plus je leur dis que je les déteste, et plus ils m'aiment. » Tu vois, tu te rappelles de ça? Voilà, ben c'est un peu ce qui s'est passé.
Pourquoi vous avez choisi d'être écrivain?
Ben écoute, là c'est une question très difficile. Écrivain, parce que quand j'étais tout petit, il y avait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, tu vois. Il n'y avait ni cinéma, ni télévision, ni théâtre. J'étais dans un village où il y avait beaucoup d'Allemands, beaucoup d'ennemis, beaucoup de batailles aussi. Et il y avait des très vieux livres anciens qui avaient plus de 100 ans. Et c'était pour moi la seule façon de m'évader, tu vois. Mais ce n'était pas des livres pour enfants, c'était des livres avec des gravures, style Jules Verne, c'était pour des plus âgés, quoi. Et là, ça a été pour moi quelque chose de formidable. Et puis, dès que je me suis mis à écrire, tu vois, je me rappelle la première fois où j'ai attaché un U à un O. Tu vas me dire ce que ça fait.
OU.
Voilà, je me suis reculé et j'ai fait OU. Et c'est là que j'ai compris que l'écriture me permettait, avec deux petites ficelles d'encre, de faire venir tous les loups du monde. Voilà. Et depuis, j'ai toujours été amoureux de l'écriture, de la lecture. Voilà comment ça s'est passé. J'arrive.
Pourquoi vous avez choisi les mots tordus?
Parce que dessiner des mots tordus, c'est quelque chose d'aussi rigolo que de les écrire, tu vois. C'est ça que j'ai aimé. C'est que d'avoir un livre qui soit dans une langue écrite, avec des textes et à côté des images qui correspondent, tu vois. Donc, tu peux lire une image. Tu vois, tu lis les dessins. Et les lettres, ça fait des dessins, les lettres. Si tu fais la lettre O, O, ça peut être le soleil, tu vois, rond comme le soleil. O, voilà.
Ça fait quoi de rencontrer ses lecteurs?
Ah, de rencontrer mes lecteurs? C'est horrible. C'est horrible, tu peux pas imaginer combien je souffre de voir des gens, des enfants qui sont plus jeunes que moi. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai horreur des gosses à cause de ça, parce qu'ils sont plus jeunes que moi, puis ils sont trop nombreux. Tu vois, puis ils rigolent tout le temps. Ils croient tout ce que je leur raconte. Bon, mais ça me plaît parce que je travaille quand même pour eux. Et puis, ils m'ont appris aussi, les enfants, du monde entier. Je vais souvent dans des pays qui ont été en guerre, tu vois, comme le Liban, comme la Somalie, comme d'autres endroits en Afrique, des endroits où les gens souffrent, où ils ont faim. Et ce qui me plaît, c'est de voir qu'ils sont tous pareils à la surface de notre terre, à savoir qu'ils rient pareil, ils pleurent pareil, ils ont la même gourmandise, le même appétit de vivre, mais ils n'ont pas la même enfance. Si je vais dans une école américaine voir des petits Américains qui apprennent le français, avec leur maman qui arrive avec des gros 4x4 pour les venir chercher dans la cour même de l'école, dans la cour, hein. C'est pas pareil qu'aller en Somalie, où ils ont pas dans une petite école d'un désert, ils n'ont pas le droit de dessiner avec leur crayon, parce qu'ils n'en ont qu'un pour toute l'année. Et il faut que ce crayon ne serve qu'à écrire. Tu vois, tous les enfants sont pareils, mais ils n'ont pas la même enfance. C'est ça qui me plaît beaucoup aussi.
C'est votre vrai nom, Pef?
Tu es de la police, Enola? Est-ce que je te demande si Enola, c'est ton vrai prénom?
Oui.
Eh ben, moi, non. Non, je m'appelle Pierre-Élie Ferrier, tu vois, P-E-F. C'est mes initiales de dessinateur. Voilà, ça peut vouloir dire aussi pélican, ému, fragile, ou parfait enfant fou, ou patate écologique farineuse. Mais c'est mon nom de dessinateur, tu vois. Voilà.
Eh bien, merci.
Ça va, inspecteur?
Oui, ça va.
Très bien, Enola. Est-ce que je peux t'embrasser?
Oui.
On va entendre le bisou dans le micro. Voilà.
L'illustre PEF au micro d'Enola. Oui, non, je suis en train de faire des gestes que vous ne pouvez pas comprendre, monsieur Pignon, parce qu'en fait, ils n'avaient aucun sens. Je me laisse emmener par le rythme. Non, je vous propose que nous retrouvions tout de suite au micro de Damien les personnes, le public qui aujourd'hui foule le sol du cadran à l'occasion du 6e salon du livre jeunesse.
Là, ça s'appelle Mon Doudou, le livre.
C'est... Attends, Lilian, c'est pour toi, ça, ou c'est pour quelqu'un d'autre de ta famille?
C'est pour Louise.
C'est pour Louise?
C'est non,
qui, Louise?
Héloïse,
pardon,
ma petite
excuse-moi.
Sœur.
Ah, d'accord. Elle aussi, déjà, lit les livres et tout? Tu lui aides aussi à lire les histoires, ou c'est que maman qui lit les histoires à la maison?
Moi aussi.
Ah, bah ça, c'est gentil de ta part. Alors, donc, madame, vous venez régulièrement avec le fiston? Enfin, chaque année, vous venez au festival, alors?
Oui, je viens tous les ans.
Et plus pour de découvrir des choses, pour vous faire dédicacer des ouvrages que vous avez déjà, ou peut-être les deux, d'ailleurs?
Bah, pour découvrir des nouveaux auteurs, et puis pour que mon fils rencontre les gens qui écrivent les livres qu'il adore.
Et alors, cet apport que je partage, que j'apprécie quant à moi, la lecture à la maison, vous trouvez qu'elle est indispensable pour l'imaginaire, le créatif, le vocabulaire, ou est-ce que tout simplement vous cherchez à ce qu'il s'évade un petit peu à travers une histoire?
Bah, les deux, je trouve que c'est indispensable. Nous, on lit des histoires tous les soirs avant de dormir, pour son vocabulaire, pour l'imaginaire, puis pour apprendre la lecture aussi pour plus tard.
D'accord, donc tous les jours, une petite histoire avant
de se coucher, tous les soirs.
Si elle est courte, il y en a deux ou pas?
Ça dépend. Des fois, quand elles sont longues, on met 2-3 soirs à lire.
Donc l'initiative de ce festival du livre de la jeunesse, du salon du livre de la jeunesse, c'est chouette, en fait.
Ah oui, j'adore.
Ouais. Eh bien, super, merci voilà. Beaucoup à vous.
De rien.
Votre prénom, en fait?
Corinne.
Merci, Corinne.
De rien.
Quand tu vois pauvre les misères. Les trois n'a point rien, tout immense douleur. Et parti de monde, maman, pourquoi à moi il plaît à Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où bonheur.
Peters également sélectionné par notre ami Pignon.
Vous écoutez Principe Actif, la radio d'Evreux, 102.4 FM.
Et nous poursuivons cette émission en direct du Salon de Livres Jeunesse et je reçois au micro Calista. Bonjour Calista.
Bonjour.
Voilà, alors toi tu as 5 ans.
Oui.
Et tu as été aux tablettes. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait avec les tablettes ?
On a joué.
Alors tu as
raconté des histoires.
Alors comment on raconte des histoires avec une tablette ?
On appuie sur des trucs.
Et l'histoire, elle se raconte toute seule ?
Oui.
D'accord. Et alors, tu as joué également avec des tablettes ?
Oui.
Tu as joué à quoi ? À quoi as-tu joué ?
Manger.
À manger ?
Oui.
C'est toi qui mangeais ?
Non. C'était un escargot.
C'était un escargot qui mangeait. Toi, tu devais lui donner à manger, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que c'est bien de jouer avec la tablette ? Est-ce que tu aimes jouer avec la tablette ?
Oui, même tout à l'heure, c'était en bas, et même je demandais à chaque fois de la tablette.
Et donc, tu as fini par jouer à la tablette, alors ?
Oui.
Très bien. Bon, est-ce que tu as été voir aussi les auteurs ? Est-ce que tu t'es promené en bas ?
Non.
Non ?
Mais je m'ai promené au bas, mais je n'ai pas vu les auteurs.
Tu n'as pas vu les auteurs, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Calista, de nous avoir partagé ton expérience avec la tablette.
Oui, mais je peux rester comme ça avec le casque.
Oui, je t'en prie, tu peux rester avec le casque si tu veux.
Ouais.
Merci, merci beaucoup, Calista. Nous poursuivons et nous recevons maintenant... Oui, je vous en prie, mettez donc le casque. Nous recevons maintenant Charlotte Saint-Laurent de l'association Lire et Faire Lire. Bonjour,
bonjour.
Charlotte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association Lire et Faire Lire, dont on devine un petit peu l'objet à travers son nom ?
Alors, Lire et Faire Lire, c'est une association qui a été créée en 1999 par Alexandre Jardin.
C'est une association en fait où des bénévoles, souvent retraités, vont en fait lire des histoires aux enfants dans les écoles, les crèches, les garderies, en fait toutes les structures qui vont accueillir des enfants. Donc les deux objectifs, c'est de donner envie aux enfants de lire, donc développer le plaisir de la lecture, et puis de développer le lien entre les plus âgés et les plus jeunes. Voilà.
C'est vraiment cette cette notion de faire lire, parce que lire, on voit bien très directement comment est-ce qu'on y arrive, mais c'est faire lire.
Voilà, c'est donner envie aux enfants après de lire par eux-mêmes et d'apprécier les histoires qui peuvent leur être racontées.
Alors aujourd'hui, vous êtes présent sur ce salon du livre jeunesse. Vous êtes dans les espaces de ce salon avec une petite tente qui crée une ambiance toute particulière pour raconter des histoires.
Oui, en fait, c'est une petite tente qui a été... donc c'est fait maison. C'est le mari d'une bénévole qui nous a aidé à la concevoir. On a acheté du tissu et puis voilà, comme ça, on a une petite maison et on fait comme ça des salons, ça permet, avec les bénévoles présents sur le stand, de pouvoir lire des histoires aux enfants qui sont présents.
Oui. L'ambiance est importante pour la lecture, j'imagine, pour écouter une histoire, pour raconter une histoire, j'imagine que l'ambiance est hyper importante.
Oui. Ah bah oui, forcément, les enfants, ils peuvent s'installer dans les coussins, c'est beaucoup plus agréable pour eux, même s'il y a un petit peu de bruit, ça les isole un petit peu, et du coup, comme ça, ils peuvent apprécier les histoires.
Est-ce qu'il y a des histoires qui marchent particulièrement bien ?
Parce qu'il
y a toujours des best-sellers, comme on pourrait dire.
Ah bah oui, là forcément, on a pris une petite caisse de livres donc de la bibliothèque de notre association. Donc oui, on a pris des livres comme Loulou, par exemple, de Solotareff, qui marche à chaque fois. Voilà.
Il y a des recettes comme ça.
Oui, il y a des livres classiques qui marchent toujours.
Vous adressez à quelle tranche d'âge et puis est-ce qu'il y a un âge pour des histoires ?
Alors, il n'y a pas d'âge pour les histoires, mais c'est vrai que nous, on intervient des enfants de 0 à 10 ans, à peu près. Mais on a des bénévoles qui lisent à des bébés de quelques mois, et ça peut aller jusqu'au collège.
Les bénévoles qui lisent chez vous ont une formation particulière ? Parce que lire une histoire, ça, c'est pas aussi évident que ça pourrait n'y paraître.
C'est pas si évident que ça. En fait, on leur propose des formations qui sont gratuites. Donc plusieurs fois dans l'année, ils ont des journées qui leur sont proposées sur des thèmes différents, pour les habituer. Donc soit avec des comédiens, soit avec des spécialistes en littérature jeunesse pour avoir plus de compétences pour ensuite aller lire aux enfants.
Alors, est-ce qu'il y a des astuces ? Parce que je me souviens, moi j'ai un souvenir en tête, d'avoir une fois raconté à mes enfants une histoire, et au bout d'un moment, une de mes filles qui m'arrête et qui me dit « Mais pourquoi tu prends cette voix ? C'est nul !» Est-ce qu'il y a des techniques comme ça qu'on pourrait donner à des parents qui nous écouteraient ? Par exemple, faire les voix, bon, ça marche pas forcément, ça.
Il faut le faire avec une certaine mesure, on va dire.
Vous êtes en train d'insinuer que je dépassais les mesures.
Peut-être pas. Non, il faut mettre un petit peu d'intention, mais pas non plus. C'est pas du théâtre. Ça reste de la lecture. Et pareil, on demande aussi aux bénévoles, par exemple, de ne pas changer les mots du texte. Parce que, justement, si l'auteur a choisi ces mots-là, c'est pour quelque chose. Et voilà.
C'est sûrement qu'il y a une bonne raison.
Voilà, exactement.
Une ou deux autres petites techniques, non, qui pourraient nous faciliter, nous, une fois qu'on raconte une histoire, l'exercice.
Des techniques, il faut s'entraîner. En fait, nous, ce qu'on apprend toujours aux bénévoles, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans une structure d'accueil avec un livre qu'ils n'ont pas lu.
Ah, c'est ça, connaître le livre
et ils doivent l'avoir répété chez eux. Et après, il y a aussi des techniques pour tenir le livre, pour être mieux installé aussi, pour le présenter aux enfants, par exemple.
Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec votre association en
Bien
tant
sûr.
Que parent, en tant que, je ne sais pas, enseignant. Je dis enseignant parce qu'il y en a eu beaucoup aujourd'hui sur ce salon du livre jeunesse. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec vous ?
Alors, soit par le biais du site national de Lire et Faire Lire, donc c'est lireetfairelire.org, ou alors contacter la Ligue de l'enseignement de l'Eure qui se trouve à Évreux. C'est le siège de l'association, en fait, parce que la Ligue de l'enseignement porte Lire et Faire Lire sur le département. Voilà.
Très bien. Bah, merci beaucoup,
merci à vous.
Charlotte, d'être passée par nos micros. Et puis, on ira se faire raconter une histoire. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'âge.
Il n'y a pas d'âge. Tout le monde est invité à venir écouter une histoire dans la tente.
Eh bien, nous y passerons dans le week-end, c'est certain.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Charlotte, d'être passée par nos micros. Je me retourne vers Monsieur Pignon, car nous l'avons évoqué durant ce début d'émission, c'est que ce matin, il y avait des rencontres professionnelles et ouvertes au public autour de l'offre numérique. Le thème précis de cette conférence et de cet échange, c'était la littérature jeunesse dans tous ses états, de l'abécédaire à la tablette. Je vous propose que nous écoutions maintenant un extrait de l'interview. Donc nous sommes avec Antoine Joly de la médiathèque d'Evreux et Jacques Baudouin, inspecteur à l'éducation nationale. Vous étiez ce matin sur une conférence qui s'intitulait très précisément « La littérature jeunesse dans tous ses états, de l'abécédaire à la tablette ». Dans le public, il y avait beaucoup d'enseignants. Vous-même, vous êtes inspecteur à l'éducation nationale, Monsieur Baudouin. Est-ce que ce sont des questions que les enseignants se posent récemment, ces nouvelles technologies, comment les intégrer à l'apprentissage, à la découverte, à l'envie d'accéder à la lecture? Est-ce que ce sont des questions récentes des enseignants et de l'éducation nationale en particulier?
Oui, ce sont des questions effectivement récentes, mais des questions qui sont pressantes. Hein, puisque il y a un enjeu effectivement économique important, l'enjeu d'associer les enfants dans cette civilisation du numérique essentiellement, mais aussi un enjeu pédagogique autour de la valorisation de la littérature par le biais du numérique, mais aussi peut-être de l'adaptation, parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin finalement, de la littérature, du livre, aux besoins de chaque enfant différent parfois, selon les âges, selon parfois les handicaps par exemple, on l'a évoqué. Donc c'est une question, je dirais, démocratique et pédagogique.
La médiathèque d'Evreux s'est posée ces questions il y a quelques années, notamment avec l'ouverture d'un secteur numérique. Est-ce que vous l'avez abordé de la même manière que l'expliquait à l'instant Jacques Baudouin?
Alors finalement, là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques années, nous avons ouvert un espace numérique avec un accès à Internet. Donc c'était des questions comment intégrer finalement ces informations virtuelles dans un support physique, que le livre, dans nos collections. Quoi offrir finalement aussi au public qui vient à la médiathèque? Alors c'était vraiment des questions nationales. Est-ce que c'était le tout Internet? Est-ce qu'il fallait créer des sites organisés selon le classement de la bibliothèque, une classification, ce qu'on appelle sitothèque? Voilà, donc ces débats ont eu lieu. Aujourd'hui, d'autres problématiques apparaissent qui font évoluer nos pratiques, et en introduisant cette nouvelle notion, c'est l'application numérique. Alors c'est vrai que nous avons travaillé avec Jacques Baudouin sur cet aspect, puisque même si les problématiques restent les mêmes, comment intégrer cet outil dans les collections, comment l'offrir tout en étant garant de nos missions, mais aussi la nouvelle donne, c'est cette nouvelle génération est tout à fait autonome et très réactive sur ce support. Hein, le support de l'écran, le support, cette adaptation, en tout cas cette accaparation du numérique. Et les bibliothèques, depuis septembre, proposent des applications à partir d'une dizaine de tablettes en lien avec les livres. Donc à nous aussi de s'accaparer cet outil pour mieux le promouvoir et travailler avec l'éducation nationale, par exemple, je pense directement lorsqu'il y a des accueils de classe, pour être vraiment connectés avec leur environnement familial, leur environnement scolaire, pour poursuivre cette évolution, attention, sans se substituer à l'écrit, au support papier. Hein. Nous voyons ça, tant l'éducation nationale, hein, on l'a bien vu ce matin, que les bibliothèques, les applications numériques, le numérique est un complément, en tout cas, de l'offre papier en littérature jeunesse.
Est-ce que le profil du jeune lecteur a changé par rapport aux années où il y avait très peu de lecture en numérique? Est-ce que le profil de nouveaux lecteurs a changé? Est-ce que du coup la technologie a une influence sur le profil du lecteur?
Oui, manifestement. Et c'est des choses qu'on ne mesure pas encore tout à fait bien, mais en même temps, on se rend compte sur les enfants, par exemple, de 3 ans, hein, qui rentrent à l'école maternelle, que assez spontanément, ils vont saisir le téléphone portable de leurs parents et être en capacité de naviguer sur le téléphone, comme ils vont être en capacité, d'ailleurs, de naviguer sur une tablette lorsqu'il s'agit de découvrir un livre. Donc là, c'est une compétence qu'on ne mesurait pas, qui n'existait pas, hein, pour le coup. Hein. Pour autant, et on l'a dit, il ne s'agit absolument pas de s'affranchir du livre et du papier et de l'aspect linéaire des récits. C'est même bien ça dont l'école a à se saisir et à travailler avec les élèves. Le numérique apportant finalement un complément dans un certain nombre d'aspects. Et aujourd'hui, c'est plutôt le numérique qui est en train de s'adapter au livre que le livre qui s'adapte au numérique.
Il y a quand même toute la notion d'interactivité possible avec le numérique et du coup j'ai envie de dire presque qu'il y a une compétition déséquilibrée entre le livre et le numérique peut-être. Comment à travers le numérique on peut quand même donner le goût à l'album papier?
Alors le terme compétition n'est pas forcément approprié puisque nous ce matin nous allons longuement parler, ça a été cité à maintes fois, d'une version enrichie. C'est vrai que les applications qui ont été montrées partent d'un album et finalement ce que le support papier ne peut pas proposer, cette interaction, à partir des écrits, de l'illustration, la version enrichie propose justement cette interaction. Et dans nos propos, c'est vrai tant à M. Baudouin que les miens, c'était pour mieux appréhender, mieux s'accaparer finalement une histoire, un album, un éditeur.
Jacques Baudouin, est-ce que dans les écoles, il y a déjà des choses qui se mettent en place autour du numérique et est-ce que vous avez quelques exemples de concrètement comment dans les classes ça se met en place?
Oui, on les a cités ce matin, hein, des exemples qui étaient plutôt d'ailleurs ce matin du côté de la productivité, de la création littéraire, de la création d'écrits par les élèves.
Dans les classes?
Dans les classes, ouais. Dans les classes. Donc avec à la fois illustrer ces exemples des applications dont se saisissent les enseignants pour faire avec les outils numériques ce qu'ils n'étaient plus pas en capacité de faire. Par exemple, on a dit ce matin qu'une enseignante avait réussi à produire avec les élèves un livre, à l'éditer, à l'imprimer au format livre tel qu'on peut le trouver en librairie, ce qui était totalement inenvisageable il y a quelques années.
J'imagine forcément que c'est un atout en tout cas des enseignants aussi pour arriver au goût de la lecture, à l'envie de la lecture, qui est l'enjeu essentiel j'imagine dans les écoles et dans les médiathèques également. C'est un atout supplémentaire.
Absolument. On le dit toujours, hein, et c'est pas une idée fausse, hein, que le numérique apporte une motivation supplémentaire pour les élèves. On l'évoquait tout à l'heure, hein, par rapport à l'usage des tablettes. Et cette motivation, elle est aussi du côté de l'accessibilité. Hein, c'est-à-dire que les outils numériques permettent finalement à des enfants jeunes, à des enfants isolés, à des enfants parfois handicapés, d'accéder à la littérature alors qu'ils ne le pourraient pas avec les moyens anciens.
Est-ce qu'aujourd'hui on est sur des prémices d'adaptation de la littérature sur des supports numériques? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des choses à développer aussi bien du côté de l'éducation nationale que du côté des médiathèques qui travaillent d'ailleurs en étroite collaboration sur les jeunes publics, hein. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses, est-ce qu'il y a encore des choses à développer? Est-ce que vous travaillez déjà sur des choses à développer ou on est plutôt sur une phase d'appréhension de l'outil?
En tout cas, pour les bibliothèques, on est dans l'appréhension de l'outil et c'est vrai que depuis le mois de septembre, nous commençons à imaginer des évolutions. Par exemple, je disais dans les perspectives que la traditionnelle heure du compte, voilà, le bibliothécaire ou la bibliothécaire accueille un groupe d'enfants, scolaires, voilà, il y a la découverte de la bibliothèque et puis cette heure du conte où pendant une demi-heure le bibliothécaire va raconter une histoire à partir d'un album papier. Là, depuis septembre, cette heure du conte est couplée finalement à une lecture à partir de la tablette par le bibliothécaire avec une projection, voilà, sur l'écran. Alors, c'est du texte et c'est de l'image. justement il y a eu une expérience faite dans, du côté du Havre où finalement l'équipe des bibliothèques ont imprimé sur des coussins des QR codes et l'enfant flashait ces QR codes et ça renvoyait à une histoire. Et on peut très bien imaginer un parcours assez original dans les collections des bibliothèques ou sur des étagères. Voilà, un QR code, le lecteur se balade dans les collections, flash un QR code et a accès à une information sur le contenu proposé dans ce domaine, sur un livre, que sais-je, voilà, que ce soit audio ou vidéo.
Du côté de l'éducation nationale, les outils dont on a besoin aujourd'hui, ils ne sont pas créés par l'éducation nationale, hein, puisque il est coutume dans l'édition donc pédagogique que les choses restent dans le domaine du privé. Mais néanmoins, il y a un travail qui se fait au niveau du ministère, une agence qui justement est chargée de faire remonter les besoins des classes, quel que soit leur niveau, auprès des éditeurs pédagogiques. C'est un premier point. Et le second point, c'est que nous avons un réseau interne à l'éducation nationale qui s'appelle le Canopée, CRN-CNDP, donc qui est ici présent au niveau du salon. Donc finalement, la mission est de faire le lien entre l'édition, le monde de l'édition, les classes, les écoles, les collèges et les lycées. Et donc, de ce point de vue-là, on a des personnels dont c'est la mission aujourd'hui de travailler sur ce front pionnier et pour faire en sorte que les outils à disposition des classes soient adaptés à la demande des enseignants.
Est-ce que finalement, ce côté charnel, vivant du livre papier, qu'on retrouve, les lecteurs aiment beaucoup ce contact avec la matière, avec... voilà, il y a un côté très charnel avec le livre. Est-ce qu'on peut se dire que finalement, c'était pour... d'autres générations et que finalement on peut travailler autre chose aujourd'hui, peut-être moins dans le charnel et dans le sensation avec la matière. Est-ce que ça fait partie d'une vieille histoire ou...
Non, absolument pas. Je crois qu'on est encore, et heureusement, et on l'a dit, hein, dans le monde des objets. Et c'est vrai que dans le domaine de la littérature de jeunesse, on a effectivement des trésors, enfin des choses qui, sur le plan visuel, tactile, charnel, affectif, sont indispensables. Et c'est vrai que depuis le bébé jusqu'à la personne la plus âgée, on a toujours ce lien charnel où, quand on est tout petit, on dévore le livre avec ses dents. Et finalement, on continue à le lire et à essayer de le lire, même quand on n'y voit plus, par tous les moyens possibles.
Ces rencontres numériques, c'était vraiment inscrit. On souhaitait vraiment connecter au Salon du Livre Jeunesse. Et pour répondre à votre question, il suffit d'aller finalement tant sur le stand des bibliothèques qu'au moins un où il y a les libraires pour s'apercevoir de cette offre assez incroyable et très belle et extraordinaire de la littérature jeunesse. En effet, des illustrateurs continuent à travailler, continuent à innover en la matière. Sur le stand des bibliothèques, il y a une dizaine de tablettes qui sont proposées et j'ai souhaité, car ça rentre vraiment dans nos missions des bibliothèques, qui est un écho au support papier. Donc par exemple, une application telle que la petite chenille qui faisait des trous, elle est proposée en application et juste à côté, et c'est là notre rôle de se positionner, de proposer, de ne pas oublier en tout cas qu'il y ait avant tout, et c'était ça l'origine, un livre. Voilà.
Merci beaucoup Antoine Joly de la médiathèque d'Evreux et Jacques Baudouin, de l'inspection de l'éducation nationale. Merci à vous. Yeah.
Cosmic Connection, également choisi toujours par notre ami Pignon.
Buenas noches.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif, le mythe des cultures.
Toujours en direct du 6e salon du livre Jeunesse d'Evreux, au Cadran. Vous pouvez encore d'ailleurs venir nous rejoindre. Nous rencontrons maintenant un illustrateur, à savoir Martin Jarry. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, dans les échanges qui ont précédé la prise d'antenne, là, pendant la pause musicale, nous échangions. Vous disiez, alors vous êtes illustrateur de presse, vous êtes illustrateur de manière générale, peintre. Oui. C'est un choix aussi de la technique qui est la peinture. Mmh. Et vous illustrez dans plusieurs ouvrages en direction de la jeunesse, et vous me disiez qu'il y avait plusieurs cas de figure, parce que je vous questionnais autour de est-ce que vous travaillez avec des auteurs en particulier, est-ce que c'est le réseau, comment ça se passe, et vous me disiez ça dépend des cas de figure. Comment se fait une rencontre de manière générale entre un illustrateur et comment ça se passe pour vous en particulier, comment se passe une rencontre entre votre travail d'illustrateur et un auteur?
Eh ben, c'est ce que je vous disais. Chaque livre, chaque album a une histoire particulière, en fait. Hein. Il est arrivé plusieurs fois, et même assez souvent dans mon cas, que les images précèdent le texte. Les peintures sont faites. Enfin, je choisis un thème, par exemple, par goût. Il y a pas mal d'années maintenant. Je peignais par plaisir des fruits, des peintures de fruits et de légumes pour, dans le but d'une exposition, dans des galeries, tout ça. Et un jour, Alain Serre d'édition Rue du Monde est venu dans mon atelier, a vu qu'il y avait quelque chose comme une centaine de peintures de fruits et légumes, et il m'a proposé de faire un livre de recettes de cuisine à partir de ces peintures. Et puis c'est arrivé à plusieurs reprises comme ça. Plus tard, ma compagne qui était éditrice chez Thierry Magnier, Valérie Cussaguet, m'avait proposé de peindre des fleurs. Donc j'ai peint une cinquantaine de fleurs, de vases, et ainsi de suite. Et après, on a cherché quelqu'un qui écrive un texte. Alors on ne savait pas très bien si c'était des poèmes, si c'était de la prose. Voilà, c'est une auteure jeunesse qui est la femme de Daniel Pénac, Véronique Lenormand, qui a suggéré qu'on aille chercher François Morel, qui a écrit ce texte magnifique, il y a Sainte Rose. Voilà.
Il y a quand même nécessité au bout d'un moment que il faut que le travail de l'auteur intéresse l'illustrateur, le travail de l'illustrateur intéresse l'auteur, ou ça peut être en lien sans que l'un l'autre se reconnaisse dans le travail mutuel.
Je pense quand même que dans les deux cas de figure là que je viens de citer, il vaut mieux que la personne qui va écrire apprécie, aime les images déjà, les peintures déjà réalisées. Il y a d'autres cas de figure hein, plus classiques où un éditeur me contacte pour et me propose un texte, mais c'est un peu pareil. Si le texte, franchement ne m'inspirait pas, ben je ferais pas les images pour l'illustrer. Donc il vaut mieux qu'il y ait, même si je connais pas l'auteur, hein, si je ne connais que le texte et si je n'ai jamais rencontré l'auteur, si le texte m'inspire, c'est évidemment préférable. Hein. Sinon, il n'y a pas de collaboration.
Nous avions tout à l'heure, durant un échange que nous avons eu à l'antenne, un illustrateur, auteur, PEF en l'occurrence, pour le citer, qui disait « Mais l'illustration se lit aussi, au même titre que les mots se lisent ». Vous avez ce regard-là aussi, vous, sur l'illustration d'un album, de dire que l'illustration se lit aussi, enfin se lit dans le sens, elle se lit pas avec la même technique que les mots, oui. mais qui aurait autant de sens à travers l'illustration que le texte.
Ah oui, pour moi c'est une évidence. Personnellement, si je pouvais, je ferais des livres d'images sans texte. C'est pas gentil pour les auteurs, mais il me semble que les images peuvent se suffire à elles-mêmes. Hein. Elles sont là elles sont censées être là pour éclairer le texte ou donner un point de vue sur le texte. Mais c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les imagiers. Pour moi, une image, se lit évidemment, elle est riche. J'irai pas jusqu'à dire plus riche que les textes, mais c'est mon point de vue, évidemment. Moi, j'aime beaucoup la peinture, plus que l'illustration encore, et je trouve que c'est très riche. Évidemment, ça se lit.
Mais alors, du coup, ça se lit, est-ce qu'il faut avoir appris à lire, comme pour le texte, une œuvre, ou c'est plus dans la sensation, enfin, est-ce qu'on peut avoir deux lectures différentes d'une œuvre? Parce que le texte, il n'y a qu'une lecture, il y a plusieurs degrés de lecture parfois, mais il y a une lecture imposée qui est celle de la technique. Sur la peinture, c'est plus délicat, c'est plus subtil.
Dans le cas de la peinture, dans le cas de l'image... C'est mieux d'avoir, une curiosité, pas forcément un savoir, mais une curiosité pour l'image, pour l'histoire de l'image, de la peinture, de l'histoire de l'art en général. Ça apporte des choses. Moi, je trouve, évidemment.
Oui.
Bon. Et puis ça permet de lire à plusieurs niveaux l'image en question. Moi, j'aime beaucoup ça, les différents degrés de lecture d'une image à l'intérieur d'un album. J'aime beaucoup ça et je m'en prive pas. Après, c'est vrai que les clés, c'est moi qui les ai et elles vont pas être données comme ça d'emblée au lecteur, au jeune ou moins jeune lecteur qui va avoir le livre entre les mains, ça c'est sûr. C'est moi qui vais pouvoir savoir ce qu'il y a à décrypter plus que celui. Mais je pense quand même que la personne qui regarde, qui lit l'album, qui le découvre, elle peut y projeter aussi sa propre histoire et c'est bien aussi. Voilà.
Martin Jarry, vous êtes aujourd'hui sur le salon du livre jeunesse. Est-ce que c'est important pour vous de croiser vos lecteurs? J'imagine des gens vous disent des choses, font des remarques, posent des questions. Est-ce que c'est important dans votre travail? Alors oui, en un premier temps, dans votre travail et deux, plus personnellement, est-ce que c'est important d'avoir ces rencontres avec les lecteurs? Et quelle importance ça a?
Pour être très franc, ça va pas avoir d'impact quand je vais retourner sur mon travail. Quand je vais retourner dans mon atelier lundi matin, je pense pas que ça aura eu un impact. Après, c'est toujours des moments d'échange agréables. Et les échanges ou les rencontres avec les écoles, les scolaires, comme ça a été le cas là, vendredi, ça, moi, ça me plaît bien, parce que j'aime bien la fraîcheur des élèves par rapport au dessin, cette fraîcheur que peut-être moi je n'ai plus. Ils sont souvent à la fois un peu hésitants, moi je les encourage beaucoup à dessiner. J'ai pas l'impression qu'on accorde suffisamment d'importance au dessin, d'ailleurs, au dessin et à la peinture à l'école.
Au dessin de manière cadrée, parce que finalement les enfants, cadrés dans le mode apprentissage, parce que finalement les enfants dessinent en permanence. Enfin, en permanence beaucoup, non?
C'est pas si vrai que ça.
Ah, c'est pas si vrai.
Ouais. Et puis ils sont peu sur deux. Dès qu'il y a ce genre de rencontre, moi je remarque qu'ils sont très, très timides par rapport au dessin. ils sont pas si à l'aise que ça. Alors plus ils grandissent en plus, et moins ils sont à l'aise. Et c'est très dommage, comme si quelque chose se perdait d'une écriture qui est une écriture comme une autre. Mais il y a quelque chose qui, comme ça, avec l'âge, avec le temps, se perd. Et c'est très dommage. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien ces rencontres avec les scolaires, parce que moi, j'ai envie de les encourager, de leur dire c'est bien, faut pas hésiter, c'est vraiment bien ce que vous dessinez. Il n'y a aucun problème.
Et puis les remarques et les questions d'enfants sont toujours plutôt très directes, ce qui permet de ne pas avoir un filtre de bonne tenue que peuvent avoir les adultes parfois. Nous avons posé en début d'émission, des intervenants autour de micro nous faisaient remarquer que la lecture, la littérature, le livre était quelque chose qui se partageait. Du coup, nous posons cette question à toutes les personnes qui viennent sur notre plateau. Quel auteur, illustrateur, vous auriez envie de partager avec nos auditeurs ?
Bon, alors, c'est pas original ce que je vais proposer. Et c'est un peu toujours la réponse que je fournis pour moi dans le domaine de l'illustration pour la jeunesse. Il y a un grand nom, c'est pas le seul, hein. Et c'est un peu bête de dire ça peut-être, mais c'est pas si bête, non. C'est Tommy Ungerer, parce que c'est un très grand auteur et dessinateur pour la jeunesse. Et puis c'est pas seulement un dessinateur pour la jeunesse, quoi. C'est un véritable artiste, c'est un artiste, hein, au complet. Sculpteur, et qui ne dessine pas que pour les enfants, qui a aussi de la cruauté dans ses dessins, quelque chose qui me plaît bien, moi, qui est assez pas méchant, mais un peu, quoi. Il y a quelque chose qui est
un peu cru, peut-être.
Un peu vif, un peu, ouais, voilà, un peu cru, un peu et vivant. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les livres pour enfants. Mais bon, moi, c'est pas ma lecture non plus favorite, hein, donc. Mais Tommy Ungerer, c'est un véritable auteur, quoi, et un vrai artiste.
Très bien, bah merci beaucoup pour ce partage et puis pour l'échange que nous avons autour de ces micros. Merci à vous, Martin Jarry, illustrateur, peintre avant tout, j'ai l'impression.
Merci.
Eh bien, c'est ainsi que va se conclure cette émission que nous avons réalisée en direct, en live, en public du Cadran à l'occasion du 6e Salon du Livre Jeunesse. Bien entendu, vous pouvez encore venir sur le Cadran afin de participer à la fin de cette journée. Mais si c'est trop tard pour vous, vous venez demain, hein, nous y serons aussi l'ouverture publique, c'est de 10h à 18h. Et puis vous nous retrouverez sur l'antenne de 15h à 16h30 également pour vous donner envie de venir pour échanger sur la littérature jeunesse. Pour réaliser, préparer, empaqueter, propulser cette émission jusqu'à vos transistors, il y a eu une équipe de choc, à savoir Damien, qui a réalisé les reportages. Nous avons eu Monsieur Pignon, qui aura assuré cette réalisation de main de maître. Et nous avons également notre expert, parce que toute émission qui se respecte doit avoir des experts. Et nous avions notre experte, à savoir Enola, jeune lectrice de 8 ans, qui aura réalisé également sa part du boulot. Allez, nous, on vous donne rendez-vous demain en direct du Salon du Livre Jeunesse à partir de 15h. Et puis, entre deux, restez à l'écoute de nos programmes.
Respirez à fond.
Principe actif, 102.4 FM.